Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'Atelier des médias, vous êtes sur RFI.
Je suis Benoît Raphaël, je suis journaliste, également entrepreneur, et aujourd'hui je suis éleveur de robots, c'est-à-dire que j'entraîne des intelligences artificielles.
C'est pour parler de son élevage de robots que je suis allé rendre visite à Benoît Raphaël il y a quelques jours. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais dans l'écosystème de l'innovation média français, c'est une figure incontournable. Durant la décennie 2007-2017, il a été la cheville ouvrière d'une panoplie de projets expérimentant la relation entre journalistes professionnels et production amateur. Il a lancé une kyrielle de médias loués, jalousés ou décriés comme le Poste, le Plus de l'Obs ou le Lab d'Europe 1. Depuis 2 ans, Benoît se consacre à une nouvelle aventure impliquant de l'intelligence artificielle, une sorte de recherche fondamentale et pratique sur l'interaction entre des robots et de la production journalistique. Je me suis donc rendu dans le cœur historique de la capitale où il vit et travaille. Nous nous sommes installés dans son salon et bureau et je lui ai demandé comment il en était arrivé à devenir, comme il dit, journaliste et entrepreneur. J'imaginais qu'il allait résumer ses aventures professionnelles passées pour parler longuement de ses activités actuelles. Je me trompais. Benoît avait envie de revenir dans le détail sur son parcours hors normes, un parcours qui illustre les expérimentations, les rêves, l'excitation, les succès, les erreurs, les échecs, les désillusions des 10 dernières années dans le domaine du journalisme numérique. Un parcours auquel nous avons choisi de consacrer 2 émissions. Benoît Raphaël rencontre avec un éleveur de robots. C'est un portrait signé Ziad Malouf et Simon Decreuse pour l'Atelier des médias. Émission 1, le journaliste.
Alors j'ai commencé par être journaliste sans faire d'études, hein. J'ai fait aucune étude de journalisme, j'ai pas fait beaucoup d'études d'ailleurs non plus, je me suis arrêté au bac plus 2, enfin je devrais pas le dire, parce que je crois que ma mère n'est pas au courant exactement de tout le parcours que j'ai fait, mais surtout j'ai voulu être journaliste parce que moi j'étais quelqu'un qui était relativement timide dans une ville qui n'était pas très connue, donc quand on habite à Grenoble, on n'est pas au centre de tout, hein. Paris, en France tout se passe globalement à Paris. Et puis en même temps, je bégayais un peu, donc c'était pas très simple quand on a beaucoup d'idées. Et j'avais plein d'idées. Et j'ai toujours eu le sentiment qu'en fait, si on laissait la parole à ceux qui étaient des gens calmes, plutôt introvertis, ou pas forcément dans la bonne famille, dans la bonne ville, au bon endroit, etc., et bien en fait, je pense qu'il y aurait plein de choses à dire, puisque moi-même, j'en étais la preuve vivante. Voilà. Donc comme je bégayais pas mal, j'ai fait de la radio, je trouve que c'était le meilleur moyen de se ridiculiser. J'ai démarré dans des radios locales, même au début, comme personne ne voulait de moi évidemment en radio, donc on avait fabriqué un espèce d'énorme mégaphone en bois, qu'on avait fabriqué nous-mêmes avec un copain. On mettait ça sur ma 2 chevaux et on allait dans les rues de la fac à Grenoble. Et donc c'est un truc très provocateur et on faisait plutôt de l'humour et on faisait des fausses infos. Ça nous permettait au moins de nous exprimer puisque personne ne voulait nous laisser la parole. Et donc évidemment, juste pour l'anecdote en fait, ma première interview a été un échec absolument total. Parce que j'interviewais l'homme politique qui avait fait tomber Carignan, qui était une grande personnalité. Donc j'étais évidemment très impressionné, donc j'avais préparé mes questions, mais quand plus il me parlait, moins j'écoutais ce qu'il me disait parce que j'étais en train de penser à les questions que j'allais lui poser. Évidemment, au bout d'un moment, je me suis mis à bégayer. Et puis, donc, il me regardait un peu bizarrement. Et puis, à la fin, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre la bande dans l'appareil. Donc, l'interview, il n'y avait pas d'interview. Ça, c'était ma première expérience.
Alain Carignan, juste, donc, c'était un homme politique du coin de la région du Dauphiné, c'est ça ?
Oui, c'est une des rares gloires qu'on a eues, enfin gloire justement, à Grenoble, c'est qu'on a eu un homme politique qui était ministre, donc c'était vachement important pour nous, et puis après c'était le premier ministre à avoir été en prison, donc on a souvent été précurseurs à Grenoble, aussi dans la corruption. Alors j'ai commencé, donc la fac se passait pas très très bien, j'ai fait du droit, mais j'étais un petit peu dissipé, donc ils m'ont pas beaucoup aimé là-bas, donc je faisais de la radio locale moi en parallèle, donc on avait créé une émission, alors c'était avant que Skyrock fasse ses émissions de blagues, mais on faisait beaucoup de, on inventait des histoires, donc c'était le soir, on prenait le pouvoir de la radio locale à 10h du soir et on inventait des tas d'histoires, on avait fait un faux épisode de Goldorak où on faisait des faux débats et du coup on avait un public dans la salle et les gens pouvaient appeler, pouvaient intervenir en fait et prendre le rôle d'un d'une personne qui avait une opinion contraire ou d'un adversaire, ou prendre le rôle d'un personnage en fonction du sujet. Ça peut être un vrai sujet d'actualité ou un sujet complètement imaginaire, régressif. Et en fait, cette émission a cartonné jusqu'à ce qu'on appelle les pompiers à 3h du matin pour leur faire une blague, ce qui évidemment n'était pas une bonne chose, ce que je ne conseille pas du tout aux jeunes d'aujourd'hui, qui du coup nous a obligés un petit peu à ralentir l'émission puisqu'on avait appelé de la radio. Donc forcément, les pompiers savaient que c'était la radio qui avait appelé et que le directeur de la radio n'était pas au courant puisqu'on était censé arrêter l'émission à minuit et qu'on l'a terminée tous les soirs à 4h du matin. Et en fait, de là, donc je me suis dit, je veux faire de la radio. J'ai aucun moyen de me faire embaucher puisque il n'y avait que la radio locale de Radio France, mais qui n'embauchait que des journalistes qui sortaient d'école, donc c'était pas possible. Donc j'ai démarré sur une radio locale grenobloise. Où là, de la même manière, on essayait de participer les gens. Mais le plus intéressant, c'est quand j'ai travaillé pour la radio du Vercors. Donc le Vercors, c'est en fait une espèce de monolithe qui est à côté de Grenoble. C'est la montagne, il n'y a que des montagnards. Pour être accepté dans le Vercors, il faut avoir au moins 5 générations au cimetière, ce que je n'avais pas. Et là, il y a à peu près 15 000 habitants sur le plateau la morte saison. Et pendant la saison, c'est quand on fait du ski ou de la randonnée, là il y a à peu près 50 000 personnes. Et donc cette radio était très écoutée par la population, mais était un peu en train de chuter. Et il y avait là, donc le président était un journaliste de France 3 et il avait recruté quelqu'un qui était à Radio France Isère, donc France Bleu Isère, et moi qui venais de l'associatif, un petit peu de n'importe où, mais qui avait pas mal d'idées. Et donc j'ai appris en fait mon métier de radio avec ces professionnels-là. Et de cette radio-là, en fait, on l'a relancée en faisant des directs des matchs de hockey sur glace, parce qu'en fait à Villard-de-Lans, le hockey sur glace, c'est le sport national. Tout le monde naît avec une batte et un palet dans la main, et donc on s'était dit, pour faire les retransmissions de matchs, le mieux pour que ça soit vraiment vivant, on va les faire par les habitants. Donc en fait, c'était les supporters de l'équipe qui faisaient les commentaires. Donc forcément, c'était pas du tout objectif, mais on s'en foutait puisque ce n'était écouté que par les habitants du plateau. Donc on pouvait insulter les adversaires, dire que l'arbitre se trompait tout le temps, c'était pas gênant. Donc ça donnait un truc extrêmement vivant. Tout ça était structuré parce qu'on était vraiment en direct, on les accompagnait, etc. Il y avait toujours un animateur qui était à côté d'eux. Et puis à la fin, ils ont fini par partir tout seuls. Et ce truc-là a cartonné, en fait. Tous les samedis soirs, en fait, les gens, même quand ils avaient un dîner avec des amis, ils mettaient, en fait, la radio, qui s'appelait Fréquence 4. Et ensuite, petit à petit, on a toujours continué cette partie-là, tout en essayant d'innover, parce que comme on n'était que deux et à mi-temps, et qu'il fallait tenir toute la journée, moi, je m'étais dit, il faut qu'on fasse le France Info, en fait, du Vercors, quoi. Donc, du coup, on avait installé tout un système digital où on faisait, il fallait qu'il y ait une info différente tous les quarts d'heure. Donc on avait des pastilles comme ça et on avait tout programmé pour que la radio existe même sans nous et qu'on ait l'illusion d'avoir des flashs tous les quarts d'heure. Et ça avait bien marché et on a remonté comme ça l'audience de la radio. Et après, donc, j'ai travaillé au Dauphiné Libéré comme correspondant local de presse, parce que même si j'étais journaliste, la radio Fréquence 4, forcément personne ne nous prenait au sérieux. Et de correspondant local de presse, je suis redescendu à Grenoble et là on m'a demandé de créer l'agence. Donc une petite agence au Dauphiné Libéré qui était en banlieue, donc dans une des banlieues les plus, paraît-il, compliquées de France, mais surtout très riches, qui s'appelle Échirolles et Saint-Martin-d'Hère. C'est là où il y a le discours d'Échirolles de Nicolas Sarkozy, c'était justement à Échirolles. Et donc l'idée, c'était de créer une agence dans le nouveau centre-ville. Et mon idée était de dire, en fait, c'est la première vraiment agence. En général, les agences sont dans des quotidiens régionaux, sont à la campagne. Là, en fait, l'idée était d'en créer une petite en banlieue. Et mon idée était de dire, on dit souvent que pour avoir l'information quand on est journaliste, il faut aller au bistrot. Donc là, on s'est dit, on va mettre un bistrot dans l'agence pour que les gens viennent. Donc on n'a pas eu l'autorisation, la licence 4, pour vendre du vin blanc. Donc on avait surtout un petit bar et un frigo. Et on sortait ce qu'on pouvait selon l'heure. Mais on était en rez-de-chaussée, donc tout le monde pouvait passer. Et on avait les jeunes des banlieues qui passaient. Quand un article leur avait pas plu, ils s'arrêtaient avec leur bagnole et ils venaient discuter. Et puis les élus, parce qu'on était sur le chemin de retour en fait du conseil municipal, donc les élus qui passaient, soit dépressifs parce que ça n'allait pas, soit parce qu'ils voulaient nous balancer une fausse info. Et finalement, on était au cœur comme ça. Et on a relancé les ventes dans le secteur de 4% sur les ventes papier, parce que là, c'était un journal papier. Et après, donc, j'ai été nommé directeur adjoint de la rédaction de Vaucluse Matin, donc, qui est la version méridionale du Dauphiné Libéré à Avignon. Donc là, j'étais avec Xavier Antoyer, qui est aujourd'hui directeur des rédactions du Progrès du Bien Public. Et là, on est arrivé dans un truc qui était dans un désastre total, avec les ventes chutées de 8%, et beaucoup de copinage entre les anciens directeurs de la rédaction et les élus. Donc tout ça fonctionnait plus très très bien. On était même presque, je crois, venu pour le fermer, en fait. Déjà, quand on arrive au début, on s'est dit on s'en va parce que c'est l'enfer, c'est une ambiance horrible. Et en fait, on a relancé le journal en s'appuyant sur une nouvelle formule. En un an, on a relancé les ventes papier, on est passé à plus de 2,5 avec des pointes à plus de 17%, et le journal a continué en fait de grandir, alors que la presse papier à l'époque, là, on était en 2005, était en train de s'effondrer. En jouant sur deux choses, d'abord on avait un concurrent, donc on essayait d'attaquer le concurrent sur ses points forts et non pas sur ses points faibles. Et surtout, en fait, au-delà de cette anecdote-là, on s'est dit, en fait, il faut recréer le lien avec les gens. Vous savez, en presse quotidienne régionale, l'essentiel du journal est fait par les correspondants locaux de presse qui sont des citoyens, en fait. Donc, le journalisme citoyen, quelque part, est né, finalement, dans la presse quotidienne régionale. Et donc, moi, j'étais allé notamment dans les banlieues, dans des quartiers, j'étais seul dans les réunions, il y avait tous les jeunes qui étaient là, qui m'insultaient, d'ailleurs. De toute façon, vous faites un journal de blanc. De toute façon, en France, tous les médias sont pris par les mecs blancs, riches, etc., qui correspondent à une caste. Et finalement, nous, on se sent pas représenté, donc vous mentez, quoi. Et je l'ai pris un peu en pleine figure, en fait. Et je pense qu'ils n'avaient pas complètement tort non plus, quelque part. Et du coup, on se dit, comment recréer ce lien-là? Pour certains, c'était difficile d'écrire, de s'installer dans un rôle de correspondant. Donc on s'est dit, en fait, on va surtout essayer d'en faire des relais, des informateurs, des choses comme ça, et de les faire participer. Peut-être, finalement, l'info qu'ils allaient donner, on va les payer, on va les réécrire, nous, un tout petit peu. Enfin, vraiment faire un travail vraiment d'accompagnement pour faire émerger, quand même, au moins un journal qui ressemble un peu à ce qui se passait dans la vraie vie, en fait, dans la réalité. Comme on a un média local, on est vraiment près des gens, hein, à la différence de... C'est vrai qu'à Paris, c'est difficile d'être local, parce que même quand on est local, on n'est jamais près. Alors que en province, en fait, on est vraiment près des gens. Il fallait donner la parole aux gens, en fait. Mais donner la parole aux gens ne suffit pas. Que ce soit en politique ou dans les médias, le simple fait d'ouvrir le micro, en fait, on récupère tous ceux qui n'ont pas le temps, qui ont quelque chose à dire, qui sont un peu habitués à parler. Dans les villes, dans les assemblées générales, quand on fait parler les gens, c'est toujours les petits vieux qui viennent râler. Et puis sur Internet, alors c'est pas toujours les petits vieux, mais il y a souvent beaucoup de dépressifs, ou les trolls, tels qu'on les appelle, ou ceux qui sont assez organisés pour structurer une parole. Mais finalement, c'est pas forcément toujours le plus intéressant. Et la vraie parole, les vraies idées, parfois, il faut l'aider à la formuler. Il faut accompagner, il faut de la méthode. Et quand on est un journaliste, notamment en local, parce que moi, j'ai commencé... dans une radio locale, puis après j'ai été au Dauphiné Libéré, on est très proche des gens, donc il faut aller parler, il faut aller faire parler les gens et leur faire sortir quelque chose. Et ça, c'est une méthode journalistique. Et quand on a compris ça, on se dit, finalement, si cette parole est émergente, est-ce qu'on ne pourrait pas justement aussi l'accompagner? Donc on a vraiment relancé là-dessus, en essayant aussi de faire un peu d'essayer de comprendre ce qui intéressait les gens, de boucler au dernier moment. Donc je me souviens de trucs où on attendait une photo aussi. La photo n'arrivait pas, en fait, le journal allait sortir avec un carré noir, en fait, en une, quoi. Et donc, on s'est fait des coups de flip comme ça, mais vraiment avec beaucoup d'énergie. Et on a relancé, en fait, ce journal. Et c'était le moment, vraiment, où en France, les blogs commençaient à arriver. Ils ont démarré en 2001, beaucoup aux États-Unis après le 11 septembre. Mais en France, c'est vraiment été 2004, 2005, 2006... où les blogs ont commencé à émerger, beaucoup avec Skyrock, les Skyblogs, qui ont été une vraie révolution. C'était un peu le Snapchat, je dirais, d'aujourd'hui, puisqu'il y avait une espèce de profusion de grand n'importe quoi aussi en même temps. On voyait aussi une expression adolescente avec ses propres codes, etc. Et puis aussi des blogueurs plus structurés, plus âgés aussi, qui commençaient à poser une réflexion, un regard, parfois donner des vraies informations, parfois contrediser en fait les médias. Donc ça apportait globalement une très grande richesse et globalement une espèce d'oxygène dans des médias qui pour beaucoup étaient un peu déjà en train de décliner, parce que le déclin de la presse notamment, pas de la télé mais de la presse, il a démarré en France en 1945, donc ça, quand on regarde la chute, en fait elle est régulière. Et mais du coup chacun s'était un peu installé dans des habitudes, c'était relativement quand même coupé de son lecteur pour s'intéresser surtout à ses sources, et souvent on écrivait un peu pour ses sources. Et donc on est dans une presse où on pense toujours que c'était mieux avant. Moi, je trouve que la presse n'était pas si drôle que ça, et que là on commençait à s'installer un peu dans un ronron, surtout en fait en presse quotidienne régionale. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ce qui est en train d'émerger, là, ce qui arrive, ce journalisme citoyen dont on parlait beaucoup, c'est pas vraiment du journalisme citoyen, d'ailleurs, c'est plutôt une expression, finalement, citoyenne, qui pouvait être très structurée ou très déstructurée. Enfin, tout ça a été très brut. Et bien, finalement, on le voyait comme une concurrence. Mais moi, je trouvais que c'était une super opportunité. Et ça m'a tout de suite excité parce que, en fait, au fond de moi, ça correspondait à ce que j'essayais de faire depuis le début, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à la direction du Dauphiné Libéré. J'ai moi-même écrit un blog, parce qu'il faut comprendre que quand on est en province, et là j'étais à Avignon, les connexions avec Paris sont compliquées. Donc, je me suis dit, je vais ouvrir un blog, ça va au moins ouvrir une conversation, je vais peut-être rencontrer des gens. Et donc, j'ai créé un blog qui s'appelait Numéro 2, je crois, au départ. Et puis ensuite, ça s'appelait Demain tous journalistes. Au début, je l'ai fait anonymement parce que je ne sais pas trop comment allait le prendre ma direction. Puis après, très rapidement, au bout de quelques mois, j'ai donné mon nom. Et ça m'a permis de me faire plein de relations, surtout en fait de m'obliger à faire des recherches parce que je ne voulais pas dire n'importe quoi, parce que les commentaires étaient ouverts. Donc, on pouvait tout à fait me corriger. Et donc, ça m'a permis de créer des contacts, notamment avec Paris, avec des Français qui travaillaient là-dessus aussi à New York. Et donc vraiment de m'ouvrir complètement l'esprit, c'est en écrivant en fait le blog que j'ai pu vraiment apprendre et devenir un peu expert petit à petit en la matière. Donc du coup je suis revenu à Grenoble au siège du Dauphiné Libéré où j'étais donc responsable de l'innovation. Enfin, j'avais pas vraiment. C'est un poste transversal. Donc, quand on dit transversal, en fait, on peut rien faire parce que du coup, personne n'est vraiment notre patron et mais personne n'est en dessous de nous non plus. Donc, et tout le monde essaie de nous envoyer des missiles dans la figure. Et comme j'étais pas quelqu'un de diplomate du tout à l'époque, j'ai beaucoup appris depuis. Ça s'est pas très bien passé. Donc, ce qu'on s'est dit finalement, puisque c'était compliqué de convaincre en interne l'ensemble des directions, mais j'étais persuadé d'avoir raison, en tout cas qu'on avait quelque chose à faire, on s'est dit on va créer, puisqu'il y avait l'élection présidentielle en 2007, on va créer un site à côté, on va mettre tout ce qu'on a envie de mettre dedans, mais qui ne va pas s'appeler le Dauphiné Libéré, qui va s'appeler quelcandidat.com. Et donc qui partait d'un truc un peu rigolo, une sorte de gamification de l'élection, où on posait des questions aux gens, à la fois un peu privées, un tout petit peu privées, et beaucoup de politiques. Et on posait les mêmes questions aux candidats et on regardait qui matchait avec qui. Et forcément, on matchait jamais avec la personne pour qui on pensait vouloir voter. Donc du coup, ça créait un peu de buzz et on permettait aux gens de mettre le macaron de la personne avec laquelle ils matchaient sur les forums, parce que c'était surtout les forums. Il n'y avait pas de réseaux sociaux en 2007. Enfin, ça démarrait à peine, donc c'était surtout sur les forums que ça buzzait. Et ce truc-là a cartonné. Et on a fait 2 millions de visiteurs uniques sur les 2 mois de la période, ce qui à l'époque était beaucoup. On a fait plus 400% de trafic, mais enfin il n'y avait quasiment rien au Dauphiné Libéré à l'époque. Et on y a mis plein de choses, on a aussi testé, il y a un truc à l'époque qui s'appelait Second Life, qui est une espèce de monde virtuel, un petit peu un Minecraft, mais un peu plus pour les adultes.
Minecraft, c'est un jeu, hein, et Second Life, ça existe toujours, je crois. Hein,
Oui, ça existe toujours, et ils en ont fait un réseau plus professionnel, mais ça va revenir. Ça va revenir avec... C'était un peu moins simple, en fait, à mettre en place à l'époque, mais ça va revenir, et tout est en place aujourd'hui pour que ça se réinstalle. Mais Minecraft est une forme qui est un monde virtuel, mais avec des pixels un peu vintage, sur lequel on peut construire un peu comme un Lego, un immense succès et un peu et vraiment dans la lignée de ce type de monde virtuel. Donc on avait créé la première agence d'un journal local là-bas. On faisait des débats aussi entre des militants, des différents candidats directement dans ces espaces virtuels. Donc sur le site, on avait cette partie gamification avec le test pour savoir quel candidat était le plus proche de nous. On avait des choses dans Second Life, on faisait plein d'expérimentations et on avait notamment aussi créé un blog participatif avec les gens du village. Donc ça a été c'était un vrai succès, mais c'était un peu envers et contre tous. Hein. Sincèrement, tout le monde était contre moi et donc c'était un tout petit peu compliqué à monter. Et le succès embêtait un peu, mais bon, en tout cas, on était contents de ce qu'on avait pu découvrir. Et à ce moment-là, donc Bruno Patineau, qui à l'époque était vice-président du Monde, avait lui un projet de médias participatifs, en tout cas de nouveaux médias avec lesquels il avait travaillé avec l'ensemble de sa bande. Donc ils avaient l'idée, posé énormément de choses, ils avaient besoin de quelqu'un pour porter ce projet. Et moi, j'en avais entendu parler, je me suis dit, ce serait vachement bien qu'ils m'appellent, mais je ne les connais pas du tout, et en fait, ils m'ont appelé.
Courte pause, restez avec nous et avec Benoît Raphaël, qui est notre invité aujourd'hui. À l'atelier des médias, nous sommes cette semaine avec le journaliste, blogueur et entrepreneur Benoît Raphaël. Si vous êtes amateur d'informations en ligne depuis une dizaine d'années, vous avez probablement entendu parler du poste, du plus de l'Obs, du lab d'Europe 1. Le point commun entre ces projets, c'est cet homme discret et peu connu. Il y a 10 ans, alors que la plupart des médias ignoraient tout des possibles de l'Internet et du web, il a compris que la participation et l'implication des audiences étaient une chance et un passage obligé. Il a convaincu son employeur de l'époque, le Dauphiné Libéré à Grenoble, de lancer un site participatif autour de la campagne présidentielle de 2007. L'expérience fut un succès. Peu après, Benoît apprend que Bruno Patino, alors vice-président du groupe Le Monde, est en train de préparer discrètement un nouveau site d'information.
Donc ils avaient l'idée, posé énormément de choses, ils avaient besoin de quelqu'un pour porter ce projet. Moi j'en avais entendu parler, je me disais ce serait vachement bien qu'ils m'appellent, mais je les connais pas du tout, et en fait ils m'ont appelé. Donc j'étais super content. Et évidemment, j'ai dit oui tout de suite, donc je suis parti du jour au lendemain pour monter ce qui était le poste.fr, qui était donc le média jeune, collaboratif, pure player du groupe Le Monde. Donc qui est évidemment très différent du Monde, puisque Le Monde est un peu le temple du journalisme. Et là, on voulait avoir un média qui s'appuyait vraiment sur l'énergie d'Internet, sur l'esprit des blogs, leur capacité à détourner, une forme de liberté de parole, mais quelque chose qui soit aussi en même temps plus tourné vers les jeunes, ou en tout cas la génération digitale plutôt que les jeunes spécifiquement, et qui soit en même temps plus populaire, donc qui aille chercher une population que ne touchait pas du tout en fait Le Monde. Donc forcément très différent du Monde. Le logo était d'une couleur rose. Donc on était vraiment dans deux univers complètement différents. D'ailleurs, le projet a démarré dans une cave pour que personne nous voit. Et puis petit à petit, on est sorti de terre. Mais c'était vraiment compliqué à assumer, en tout cas pour ce grand média qu'est Le Monde. Et ça a été un lieu d'expérimentation pendant pas mal d'années. Parce que on l'a monté donc en 2007. On l'a lancé le 8 septembre 2007 avec une énorme angoisse. Parce que tout le monde attendait ce truc-là. Et tout le monde, et quand ils ont vu sortir le truc, ils ont dit mais c'est quoi ce truc? Donc je m'en suis pris plein la tête, évidemment. Je me souviens, j'avais été invité sur LCI et le journaliste m'a dit mais vous avez votre carte de presse, que vous êtes responsable éditorial, vous n'êtes pas rédacteur en chef. Et je dis bah oui, j'ai ma carte de presse. Donc voilà, donc c'était compliqué parce que ce média d'emblée s'est dit on va faire parler les gens. Donc c'est un média collaboratif qui va mêler journalistes et des citoyens, et on voulait pas que ça soit un média comme l'était AgoraVox, qui était une très belle initiative, hein. Mais surtout, on voulait pas juste laisser la parole, parce qu'on se dit d'abord, de toute façon, les gens qu'on a envie de faire s'exprimer, ils sont pas forcément sur ces plateformes-là, parce que peut-être qu'ils savent même pas vraiment bien écrire, ils ont pas le temps d'écrire régulièrement. Donc on voulait pas les faire venir les blogueurs non plus. On voulait aller chercher des gens qui ne prennent pas la parole. Et on s'est dit, le meilleur moyen de leur faire prendre la parole, c'est pas forcément de les faire écrire, c'est parfois simplement, on va essayer de voir ce qu'ils peuvent nous donner. Des fois, ils vont juste sélectionner de l'info. En fait, on va laisser ça un peu libre et nos journalistes vont être là pour les accompagner, pour donner l'exemple. Donc, on a volontairement dégradé l'écriture journalistique, ce qui était un travail très, très méticuleux. On nous a accusé de faire n'importe quoi, mais en fait, c'était très travaillé. Moi, je voulais que, en fait, les gens écrivent moins bien. En tout cas, écrire de façon plus simple, en tout cas, que les titres soient assez facilement compréhensibles. Les photos, en fait, on les graffitait mal volontairement avec un logiciel Paint avec du rose pour marquer où était l'endroit où il y avait eu lieu tel accident, etc., pour rajouter des petits mots dessus. Donc, c'était volontairement maladroit. Et donc, pourquoi c'est mal fait? Ça fait pas pro, mais c'était pour justement inciter les gens à le faire eux-mêmes, puisqu'ils pouvaient voir qu'on était un peu, bon, finalement, en fait, c'était assez facile à faire. Donc, pour pas écraser, en fait, quelque part, les gens avec une écriture trop structurée, etc. Donc, on écrivait assez court, on faisait beaucoup de bullet points, on avait des styles assez faciles à reproduire, et c'est assez marrant parce que d'un côté, il y a les internautes, en fait, recopiaient nos styles, faisaient comme nous. Donc, du coup, ça a permis de s'exprimer sans avoir trop à rédiger, etc. Certains avaient un vrai talent d'écriture, par contre, donc ça a fait émerger les talents. Et puis d'autres, en fait, faisaient carrément n'importe quoi. Et de là, on a beaucoup appris. Donc, d'abord, c'est là qu'on a appris le buzz, puisque les réseaux sociaux en 2007, c'était rien du tout. Twitter servait surtout à certains blogueurs pour dire ouais, je suis là ou je suis à tel endroit, voilà ce que je fais. Et Facebook était surtout démarré aux États-Unis, et en France, c'était plutôt les geeks et beaucoup d'étudiants qui l'utilisaient. Et le buzz, en fait, pour nous, c'était en fait nos lecteurs, puisqu'en fait, ils écrivaient. et on voyait sur quoi ils écrivaient, et on avait pas loin de 500 contributions par jour, donc en fait d'articles qui étaient écrits, sans compter les commentaires, etc. Donc on avait, et comme le site a eu très rapidement du succès. Au bout de 4 mois, c'était un peu difficile au début, puis au bout de 4 mois, on a commencé vraiment à accélérer. Et 2 ans après, on dépassait Libération en nombre de visiteurs uniques. Donc on avait beaucoup de volume, beaucoup de gens qui participaient, donc on a pu observer énormément de choses. Et on voyait les sujets monter. C'est là que je me suis dit, mais en fait, ce qu'on appelle le buzz, on peut sentir les tendances en temps réel, et du coup, on peut rebondir dessus. Et on a commencé à jouer avec ça. On n'a pas pris de blogueurs, on avait pris un ou deux blogueurs un peu connus. Et puis après, on a voulu créer nos propres stars, en fait. Dont l'un, qui s'appelle Tian, qui faisait au bout d'un moment 25% du trafic. Et son travail, c'était juste de sélectionner des articles cool qu'il avait trouvés, qu'il trouvait intéressants, et de mettre un petit commentaire. C'est juste ça. Et ça cartonnait. Et ce qui était rigolo, c'est que quand un journaliste ou un média connu qui voulait écrire chez nous, en fait, écrivait sur le même sujet, lui, il prenait juste il faisait juste un lien vers l'article éventuellement du même média ou sur le même sujet, juste un lien, et les gens commentaient beaucoup plus, c'était beaucoup plus liké, et il y avait beaucoup plus de trafic. Pourquoi ? Parce qu'il faisait à sa manière, qu'il avait instauré un lien de confiance aussi avec les gens. Et là, du coup, on a beaucoup appris sur le lien qu'on a besoin de créer, nous, en tant que journalistes, avec les gens. Donc bref, énormément, en fait, d'inventions, beaucoup d'erreurs, beaucoup de conneries qui ont été faites aussi. On a testé plein de trucs, on faisait des lives en direct pendant les élections, etc. Enfin, on a inventé énormément de choses. Il y avait énormément d'énergie, et puis l'aventure s'est arrêtée puisque bon, Bruno d'abord s'est fait éjecter du monde après avoir tenté de se positionner. Enfin, tout ça, c'est le jeu politique qu'on peut avoir autour du monde. Donc du coup, son bébé est devenu un peu l'ennemi. Donc moi, je me suis retrouvé un tout petit peu tout seul dans la citadelle. Dao Nguyen, qui était la directrice générale du Monde Interactif, qui a beaucoup porté le projet, qui d'ailleurs aujourd'hui est la patronne de BuzzFeed, ça ne s'invente pas, est partie elle aussi, donc j'étais un peu seul dans la citadelle, quoi. Donc du coup, moi voulant rester sur un succès, sur une belle aventure, et ayant horreur de l'amertume, j'ai quitté le poste en 2010, face à une direction qui à l'époque voulait tuer le poste, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas le vendre, il voulait le tuer, parce que beaucoup de gens voulaient l'acheter à l'époque, le racheter. Et je crois que c'était compliqué politiquement, en interne aussi. C'était un média qui était devenu trop insolent, en tout cas trop différent finalement de l'ADN de ce qu'est le Monde. Et ces deux trucs à côté pouvaient difficilement cohabiter. Mais c'était pas tant en fait le Monde et le Poste, puisqu'en fait le Monde Interactif, qui était donc la version digitale en fait du Monde. Il faut se rappeler qu'à l'époque, le Monde digital et le Monde papier étaient complètement séparés dans deux bâtiments différents. Donc ils ne se parlaient pas, ils ne se voyaient pas, c'était deux espaces physiques différents. C'est quand ça a été repris, que la direction a changé, qu'en fait on a rassemblé tout le monde au même endroit, mais en fait avant c'était séparé. Donc nous on était séparés avec le Monde Interactif. Donc il n'y a pas de problème avec les gens du Monde Interactif, qui a toujours été une équipe plutôt en avance en fait sur son temps. Le Monde a été à l'origine de nombreuses innovations, dont le Poste. Alors, qui a été créé en partie avec des gens aussi du Monde Interactif. On était dans les mêmes locaux. Il y avait parfois des conflits, évidemment, sur la façon dont nous, on traitait l'information, les sujets qu'on traitait et ceux qu'on ne voulait pas traiter. Mais globalement, ça se passait plutôt bien. Et en fait, il y a eu beaucoup d'interactions, ce qui fait qu'en fait, le Monde Interactif a énormément appris du Poste. D'abord, la plateforme même, le back-office qui a servi à créer le Poste, donc est extrêmement fluide, très vivant, en fait, a servi pour celui du Monde. Et puis, tout ce qu'on a appris dans la gestion des non-journalistes, donc des blogueurs. Donc, il y avait énormément de blogs, en fait, sur le Monde. Donc, tout ça, en fait, circulait énormément. On s'apprenait mutuellement aussi énormément de choses. Donc, ça a été très bénéfique, en fait, à l'équipe du Monde Interactif. Mais dans l'univers, en fait, du Monde, et d'un point de vue politique interne, j'entends, c'était quand même extrêmement compliqué. On aurait peut-être pu l'amener différemment. Mais voilà, après c'est l'histoire, mais en tout cas ce projet a pu émerger. C'est dommage effectivement qu'il n'ait pas pu continuer. Quand on voit ce qui est devenu BuzzFeed, qui est né après le Poste d'ailleurs, on était sur des lignes assez proches, sur les modèles économiques. On avait testé des choses qu'a testé BuzzFeed, non pas qu'on y ait pensé avant, simplement c'est que c'était naturel à l'époque, avec pas mal de succès, mais la régie du Monde n'était pas vraiment adaptée pour le faire. Donc c'est vrai que Ça a été un truc super pendant ces périodes-là. Moi, ça m'a appris énormément. Ça a créé beaucoup de codes aussi. Il y a une personnalité particulière. Il y a un art du poste, en fait, qui s'est fait à l'époque. Et c'est chouette. C'est un truc éphémère, hein, mais ça fait partie d'Internet. Et moi, j'ai surfé là-dessus pour créer d'autres choses derrière. Et je pense que ça a été un moment un peu étrange, hein, dans ce qui s'est passé dans les médias sur Internet. Mais on a créé et on s'est beaucoup amusé.
Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec le journaliste et entrepreneur Benoît Raphaël.
Donc, 2010, toi tu quittes le poste, quelques mois plus tard, donc le projet est avalé d'une certaine manière par le Huffington Post, qui s'allie au Monde, et finalement ce qu'était le poste, donc un projet spécifique porté par le Monde, disparaît. Mais toi tu continues un peu sur la même lancée, c'est-à-dire à explorer les relations entre des médias institués et des projets annexes qui souvent sont participatifs ou qui ont une dynamique particulière.
Oui, alors d'ailleurs, quand je suis parti, il n'était pas encore question de rachat par le Huffington Post, qui était d'ailleurs une très bonne chose, parce que finalement, ils ont récupéré l'ensemble de l'audience. Donc, ils ont vécu sur l'audience du Poste, qui était quand même assez importante pendant le lancement. Ils ont récupéré toute la communauté. Mais à l'époque, donc, quand j'ai quitté le Poste, en fait, le but, c'était que quelqu'un le rachète. Du coup, moi, on m'a sollicité à droite à gauche pour qu'on puisse racheter le Poste. Et donc il y avait beaucoup de gens, il y a notamment Pierre Berger, Jacques Rosselin, et qui étaient sur le coup. Il y a d'autres personnalités du digital qui essayaient en fait de le racheter, mais la direction ne voulait pas. Donc en gros, il y avait énormément d'acheteurs qui étaient prêts quand même à racheter et à mettre de l'argent dessus. Donc mais je pense que le Monde a eu peur d'avoir un concurrent quelque part qui puisse se créer. Et donc au départ, on était plutôt sur un projet de si on pouvait pas le racheter, de relancer une espèce de nouveau média sur la même idée. Et puis Pierre Berger finalement a racheté le Monde dans ce temps-là. Donc moi, je suis parti vers d'autres aventures. Mais il s'est passé beaucoup de choses autour de la fin du poste et de qu'est-ce qu'on allait en faire. Et tout ça était assez intéressant. Et donc après, donc Claude Perdrier est venu me chercher pour l'aider dans la stratégie digitale de l'Obs, et notamment pour créer un nouveau média dans le média. Mais lui s'était dit, on va pas faire l'erreur du Monde, on va pas faire un média complètement à côté, on va faire un média qui soit intégré par la marque. Donc on a créé le Plus de l'Obs, donc c'était comme le Poste, ce serait peut-être le Poste du Monde, et là c'est le Plus de l'Obs. Donc c'était un média dans le média, porté quand même par la marque, avec une volonté d'être un peu plus populaire en fait, plus ouvert en fait que l'était l'Obs, mais en montant quand même en qualité par rapport au Poste. Et l'idée était toujours la même chose, mais un petit peu différemment, de se dire qu'en fait on entend toujours les mêmes experts, les mêmes témoins sur les chaînes de télé, dans les journaux, très souvent d'ailleurs, parce que quand il se passe un événement, bah, y a un témoin qui parle. Bon, il parle pas trop mal, du coup les autres collègues, des confrères des autres chaînes arrivent derrière, parce que ça va quand même beaucoup plus vite. Et donc on avait un peu marre d'entendre toujours un peu les mêmes voix. On s'est dit, finalement, il y a partout en France, en province aussi, des gens qui ont des choses à dire, qui n'ont souvent pas le temps de s'exprimer. Souvent ça va très bien s'exprimer, notamment pour toucher des gens. Par exemple, prenez un sociologue, en fait il peut être super intelligent, écrire vachement bien son bouquin, mais en fait pour écrire un billet, pour expliquer les choses, ça peut être extrêmement compliqué en fait à lire, très chiant. Et donc comment on fait pour faire un travail d'editing, de coaching en fait, de tous ces gens-là qui ont plein de choses à dire. Ça peut être un témoin sur un moment, ou un spécialiste, un chercheur qui a une science particulière. Et on s'est dit, on va essayer de surprendre un peu les gens et de parler un peu d'autre chose. Et donc, une des grandes victoires, c'était un jour, on a eu, sur le même sujet, on a un ministre de l'agriculture qui avait son billet et un agriculteur qui avait son billet. Et l'agriculteur, il était pas mal coaché. Mais du coup, les deux étaient exactement au même plan. Les deux se valaient. Il y avait une vraie qualité éditoriale des deux côtés. Et je trouvais, là, on est en train de faire quelque chose. C'est-à-dire que le journaliste, il va chercher les angles, il va chercher les gens, mais il va coacher chaque citoyen pour lui faire sortir quelque chose d'intéressant et faire en sorte que cette parole-là, en fait, elle puisse enrichir le monde de l'information, parce que finalement, le monde est tellement complexe et en crise que cette richesse-là, cette horizontalité-là, on en a besoin pour trouver plus de solutions. Donc ça a été un gros succès. On a eu beaucoup de chance avec ce projet. D'abord parce qu'il a été, on est allé chercher Aude Baron qui venait du poste et qui a pris en charge ce projet, l'a complètement, l'a modifié petit à petit. On a fait son truc et on a fait un vrai succès. Et donc là, on était dans une sorte de nouvelle exploration de ce qu'on peut faire, dans ce qu'on appelle le participatif. Mais moi, je ne parle plus de participatif, je pense que ça ne veut plus dire grand-chose. Aujourd'hui, en 2017 et en 2018, on pourra... le fait que... Avant, ça choquait de dire participatif. Maintenant, ça ne surprend plus personne. C'est comme vous parlez de digital à un jeune, il dit de quoi tu parles. Enfin, le monde est digital. Donc le digital ne veut plus rien dire, participatif ne veut plus rien dire, parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux, ils sont arrivés... très rapidement entre-temps. Et aujourd'hui, tout le monde est son propre média et on n'a plus besoin, sauf pour le prestige, d'avoir accès à un média traditionnel. Il suffit de prendre son téléphone, de se filmer, de trouver son audience. Donc, je parlerai plutôt d'horizontalisation, sachant que le rôle des médias, et moi tel que je le voyais, c'était d'horizontaliser beaucoup plus l'information et tout ça demander de l'accompagnement, du coaching, de la méthode, mais aussi de l'écoute. Et puis surtout, petit à petit, je me suis rendu compte que le problème de confiance qu'il y a, qui est lié à, aussi à cette horizontalisation, donc il y a de plus en plus de voix, donc savoir qui a raison ou pas, la confiance, ce manque de confiance qu'il y a dans les médias aujourd'hui impose les journalistes à aller parler avec les gens. Alors avant, c'était les commentaires, maintenant les commentaires ont été envahis par les trolls, donc du coup ça se passe sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu le bordel, et finalement on utilise les réseaux sociaux comme un outil marketing. Alors que les réseaux sociaux sont un endroit où les médias peuvent aller aussi échanger, s'expliquer avec les gens. Et donc, j'ai essayé de poursuivre en fait cette vision de médias collaboratifs à l'époque des réseaux sociaux, en se disant finalement c'est une horizontalisation et qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de faire émerger en fait, de donner la parole, puisque la parole se prend spontanément. Et donc, le troisième média auquel que j'ai contribué à créer était le Lab d'Europe 1. Et là, il partait de ce constat-là. Les réseaux sociaux sont là. Aujourd'hui, le terrain, c'est plus seulement le terrain tel qu'on l'entend, c'est-à-dire je vais sur place, dans le village, en zone de guerre, etc. Le terrain, c'est aussi les réseaux sociaux. C'est aussi Internet. Ce qui était un terme qui était assez compliqué à comprendre pour un journaliste qui disait « Mais non, mais c'est virtuel. » J'ai dit « Non. Mais du coup, c'est quoi? Les gens s'expriment. » Oui, mais les gens s'expriment comme dans un bistrot. Et puis, ils ne font pas que s'exprimer. Il y a des images qui remontent. Il se passe quelque chose. Il y a des données, il y a des faits réels qui n'existent que sur le réseau. Donc, le monde et le monde virtuel sont de plus en plus interconnectés. Le monde est devenu virtuel. Mais à ce moment-là, le monde de l'Internet, l'expression sur Internet devenait un vrai terrain. Et ce que les gens ne comprenaient pas, c'est qu'ils disaient « Oui, mais sur Internet, on dit n'importe quoi, c'est dangereux. » Comme si Internet était un média. Internet n'a jamais été un média, c'est un terrain. Et dans ce terrain-là, ben, il y a des informations brutes qui émergent. Donc, de Twitter, évidemment. On le voyait, évidemment, on l'a vu lors du printemps arabe, notamment. On le voit encore en période de guerre. Mais quand la censure arrive, énormément d'images arrivaient. Donc, on a bien vu que là, il y avait de l'info brute. Au-delà des commentaires, des trolls ou de ceux qui avaient quelque chose à dire, il y avait aussi de l'information brute. Et qu'on s'est dit que, finalement, ce qui se passe, ce qui se dit sur Internet... C'est aussi le rôle d'un journaliste d'aller chercher et de donner du sens. Donc le Lab d'Europe 1 était un média qui ne s'appuyait que sur Internet, essentiellement sur Twitter, qui d'ailleurs était destiné à une population qui était sur Twitter, donc avait le même ton, la même rapidité. Et le but, c'était d'aller chercher des infos qu'on trouvait sur Internet, souvent de les croiser et de les tourner avec un peu d'humour et mettre le point sur ce qui fâchait dans des formats très courts, très impactants, et qui pouvaient se partager très facilement. Au début, on voulait le faire un peu participatif, puis ce côté participatif n'a pas bien marché, puisque finalement, tout se partageait sur Twitter et pas du tout depuis le site. Et finalement, le participatif s'est fait de gens qui, sur Twitter, envoyaient des messages au lab, notamment beaucoup d'élus qui n'avaient pas la parole sur les médias traditionnels et qui utilisaient en fait le lab d'Europe 1 pour s'exprimer. Et en fait, au début, le journaliste ne comprenait pas, en disant « mais du coup, c'est la revue de presse qu'on fait, on va aller chercher des articles ». Et petit à petit, parce qu'on a recruté un rédac chef qui comprenait bien ça, qui comprenait bien les réseaux, qui faisait de la recherche, notamment sur les réseaux. Donc il y a une façon de faire, il y a un métier particulier qui s'est créé en fait au Lab d'Europe 1, où ils sont devenus vraiment des professionnels pour aller chercher le petit truc, le croiser. Et quelque part, on peut sortir une info du magma brut en fait de l'Internet. Et ce que n'arrivaient pas à comprendre au départ les rédactions, et on a pu le prouver avec le Lab d'Europe 1, donc qui a été monté avec Laurent Guimier notamment, à demande de Denis Oliven qui voulait son média politique. Et on a créé un OVNI plutôt que créé un grand média politique. Mais c'est le média qui est resté, qui a gardé une bonne notoriété et qui continue en fait de surprendre, d'étonner. Et qui en tout cas s'est aujourd'hui installé dans le paysage. Mais à l'époque, quand on le lançait, d'ailleurs, il a failli ne pas être lancé. Parce qu'on se disait, mais c'est quoi ce truc? C'est trop petit. Enfin, quand les gens avaient vu la maquette et la façon dont on avait monté les choses, on se disait, mais c'est un petit truc, c'est bizarre. Et finalement, ce média-là, il ne surprend plus personne maintenant aujourd'hui. Et il s'est installé. Il a changé pas mal, évidemment, heureusement. Mais il s'est plutôt installé.
Donc ça, c'est le troisième média. On est en quoi, 2011, 2012, à la veille des présidentielles de 2012. Tu participes à la création de ce média. C'était donc il y a 5 ans. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Tu restes pas au Lab. Hein. C'est toi, ton boulot, c'était de le lancer, de le concevoir, de participer à la réflexion, etc. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi?
Alors après, j'ai eu une aventure entrepreneuriale. Alors déjà, en fait, quand on est monté le Lab d'Europe 1, en fait, je l'avais fait avec ma start-up, dont l'objectif était de créer justement des médias qui permettaient de rassembler l'info différemment, enfin de faire justement ce travail qu'on appelait la curation. Du mot anglais curation, qui n'a jamais trouvé d'ailleurs son équivalent en français, donc maintenant on ne dit plus rien. En gros, la sélection et la mise en forme d'informations qu'on trouve un peu partout sur Internet. Le fameux tri de l'information qui devient de plus en plus urgent aujourd'hui, mais et de plus en plus complexe d'ailleurs aujourd'hui. Et à cette époque-là, en fait, j'ai monté cette boîte qui a permis en fait de créer le Lab d'Europe 1. Mais la partie technique de cette boîte était pas forcément, c'était pas trop mon métier. On n'avait pas forcément de modèle économique, donc le Lab était un succès, mais la start-up qui a permis de le faire n'était pas un succès, qui a permis de construire la plateforme, j'entends, et d'aider à la conception n'a pas été un succès. Et donc j'ai relancé une autre entreprise après avoir rencontré Jean Véronis qui était à l'époque un chercheur, une personnalité très connue sur le web parce qu'il analysait beaucoup les mots du web et les mots AUX aussi du web parce que c'est un spécialiste du traitement automatique des langues, donc un sémanticien, un professeur à l'université d'Aix-Marseille qui avait écrit des livres, notamment il avait analysé les discours de Sarkozy, donc il utilisait les algorithmes. Hein, pour faire ce qu'on appelle du text mining, pour analyser les mots, voir les différentes occurrences. Et puis avec Pierre Chappaz au sein de Wikio, il avait monté le Lab de Wikio, donc c'est lui qui avait créé l'algorithme qui permettait de faire le top des blogs, qui a été une espèce de référence nationale, pour savoir quel était le meilleur blog, quel était le plus gros influenceur. Donc ce top des blogs a été fait par lui et développé par Thomas Maillet, qui est mon associé d'ailleurs aujourd'hui, qui lui est ingénieur et qui a travaillé longtemps avec Jean Véronis dans ce laboratoire. Donc Wikio a été lancé par Pierre Chappaz, c'était un média un peu automatique, une sorte de Google News on steroids, qui ensuite est devenu Tids, qui est devenu une des principales boîtes de publicité vidéo aujourd'hui. Et donc Jean, je l'avais rencontré à ce moment-là et on s'est dit, moi je viens des médias. Toi, tu viens justement des algorithmes, d'analyse de tendance aussi. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Moi, je m'étais rendu compte au poste qu'on avait besoin de mesurer les choses en temps réel. Donc, on a créé en fait une boîte ensemble qui s'appelait Transboard. Et on a créé un outil qui permettait en fait d'analyser en temps réel les articles les plus partagés, mais sur le moment, depuis une heure, depuis deux heures. Et la sémantique permettait de les rassembler en sujet, de voir combien d'articles avaient été écrits sur le sujet, de voir ce qui passait sur Google News. Enfin, en gros, un vrai outil pour permettre aux journalistes, en temps réel, de voir les tendances et de pouvoir rebondir dessus. On trouvait que cette information était importante à l'époque et pouvait exprimer en tout cas une certaine forme de qualité puisque c'était ce qui intéressait les gens à ce moment-là et les journalistes pouvaient faire quelque chose, en tout cas ne pas ignorer ça. Aujourd'hui, je n'ai pas le même regard, mais parce que le monde a changé et que le volume de partage n'est plus synonyme en fait, de qualité ou d'expression populaire, il est synonyme d'autre chose. Mais donc on a monté cet outil-là. On a décidé de monter une boîte, on a eu la chance de pouvoir lever 500 000 euros sur cette boîte, donc c'était bien parti. Et puis si on devait partir à New York, on avait déjà des contacts avec des financeurs. Et au moment de partir à New York, c'est-à-dire 6 mois après le lancement de Transboard et 6 mois après la levée de fonds, Jean Véronis est mort brutalement. Et donc, ça a été vraiment l'effondrement. C'était devenu entre-temps un de mes meilleurs amis, donc on était très très proches. Et donc là, l'arrêt brutal, en fait, et la mort de mon ami a failli tuer la boîte. Donc on a relancé grâce à une levée de fonds auprès d'amis pour maintenir l'équipe et continuer, mais c'est pas que le cœur n'y était plus, mais c'était quand même compliqué. J'avais monté cette boîte autour de lui, donc c'est une grande leçon, beaucoup de résilience on va dire aussi, puisque comment on continue de faire ce truc là jusqu'au moment où on a fait tenter une troisième levée de fonds, mais on a du mal à s'accrocher parce qu'il fallait qu'on lève beaucoup plus d'argent pour maintenir ce produit-là, puis j'en étais plus là, donc l'esprit était plus dans la boîte en fait quelque part. Il nous a fallu 2 ans pour comprendre ça. Donc la boîte a été montée en 2013, Jean est mort en 2013 donc, et en 2015 on était la boîte, enfin on a essayé de tenter une troisième levée de fonds, quelqu'un devait nous financer. Donc ils nous ont fait bosser sur des tas de trucs, donc on travaillait plus du tout sur le produit. Puis au dernier moment, il a abandonné pour des raisons personnelles. Et donc là, on était mort de chez mort, on n'avait plus d'argent du tout. On ne pouvait même pas payer Pôle emploi pour le licenciement économique. Et là, on s'est retrouvés tous les deux avec Thomas Maillet, donc, qui est l'ingénieur, qui c'est lui qui faisait tous les algorithmes et qui pensait tout ça. Et on s'est dit qu'on s'est jamais engueulé, on se connaît pas. On se connaît pas très bien, c'était pas un ami d'ailleurs, quelqu'un que je respecte et que j'apprécie beaucoup. Mais on s'est dit on s'est jamais engueulé, alors que moi j'ai fait d'autres associations et toujours en fait les boîtes se plantent souvent parce qu'on s'entend pas bien avec les gens. Et souvent des fois on s'associe avec ses amis, c'est la pire des choses à faire. Enfin, c'est pas une très bonne raison de s'associer avec quelqu'un, l'amitié, c'est souvent une mauvaise raison en fait. Et on s'est dit, ben, on aura... le fait qu'on se soit rencontrés, c'est un pur hasard et on se serait jamais rencontrés, on se reverra jamais si on arrête là. Donc ce serait dommage en fait d'arrêter de travailler ensemble.
C'était Benoît Raphaël, rencontre avec un éleveur de robots, première partie. La semaine prochaine, nous serons encore avec le même invité pour parler de son nouveau projet Flint, qui utilise l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les robots, pour informer ses abonnés. L'atelier des médias a été préparé cette semaine par Simon Decreuse, Constance Léon, Léo Caravagna, Camille Deloche et Ziane Malouf. Salut à toutes et à tous pour nous réentendre, penser, podcast.